Alors Jérôme Lejeune, pour vous raconter un peu son parcours, est né dans une famille qui était dans la banlieue sud de Paris, à Montrouge. Il est né en 1926, donc entre les deux guerres mondiales. Il était le deuxième d'une famille qui accueillera trois enfants. Son père avait une petite entreprise familiale et il avait un grand-père vétérinaire. Sa mère était au foyer. Et Jérôme Lejeune, très tôt, dès l'âge de l'adolescence, a pensé à la médecine. Et il a dit lui-même qu'il n'avait jamais eu une autre idée, une autre envie, un autre souhait. La médecine lui est toujours apparue comme la profession, et il employait le terme de profession au plein sens du terme, vraiment, dans lequel il voulait se dévouer au service des malades. Il tenait beaucoup à cette dimension de service des malades. Il avait lu aussi Le médecin de campagne, le roman de Balzac, qui visiblement l'avait beaucoup marqué. Et donc voilà, son idée c'était d'être médecin, médecin généraliste à la campagne, pour rencontrer toutes sortes de personnes qui avaient besoin des lumières d'un médecin. Et donc il a fait des études de médecine à la faculté de Paris. Ça a été difficile, c'était la fin de la guerre, c'était dans un contexte un peu compliqué. Et puis il a fini ses études en 1951, il a passé sa thèse, et en 1952, il devait faire un stage de médecine. Et il a rejoint le service du professeur Turpin, qui avait un service de pédiatrie. Et tout de suite, le professeur Turpin l'a conduit à recevoir en particulier des personnes handicapées mentales. C'était à l'époque le terme qu'on employait. Aujourd'hui, on parle plutôt de déficience intellectuelle, mais on employait le terme de handicapés mentaux. Et en particulier des enfants, c'est le handicap mental le plus répandu, le plus fréquent, en particulier des personnes atteintes de ce qu'on appelait à l'époque le mongolisme. Alors, pourquoi le mongolisme ? Parce que il y a eu un médecin au XIXe siècle qui a décrit le mongolisme d'une manière qui aujourd'hui d'ailleurs nous choquerait beaucoup, d'une manière un peu caricaturale, et il trouvait que les enfants atteints de cette maladie avaient une petite ressemblance avec le peuple mongol. Bon, il faut savoir que chez les Mongols, on appelle cette maladie la maladie européenne. Donc vous voyez, on est très subjectif, et c'était une description très subjective, avec peut-être un petit soupçon de mépris, et Jérôme Lejeune n'aimait pas cette dénomination qu'il trouvait très, très fausse. En tout cas, c'était comme ça qu'on les appelait à cette époque-là. Il y avait une dimension importante, c'est qu'à cette époque, on ne savait pas du tout d'où venait cette maladie et on pensait qu'elle était d'origine vénérienne. Donc c'est vous dire que dans les familles qui accueillaient un petit enfant atteint de ce qu'on appelait donc le mongolisme, il y avait un petit soupçon de faute quelque part, de faute des parents, et donc il y avait une dimension de culpabilité bien réelle. Et c'était très mal ressenti, très mal vécu, bien sûr, par les familles. Et ça s'ajoutait aux difficultés d'accueillir, bien sûr, un enfant atteint de cette maladie, de cette pathologie. Et alors, avec le professeur Turpin, Jérôme Lejeune s'est mis à travailler, à chercher, à étudier cette maladie. Donc lui qui voulait faire juste ce stage pour partir ensuite comme médecin quelque part à la campagne, a été très touché par ses enfants. Il a été véritablement bouleversé et il a souhaité rester auprès d'eux et consacrer son temps, sa science, ses talents à l'étude de cette maladie. Il voulait améliorer leur état, il voulait les accompagner le mieux possible. Dans ces années-là, ils étaient peu mal accompagnés. Voilà, il voulait vraiment se mettre à leur disposition. Avec le professeur Turpin, ils ont aussi, donc il y avait cette dimension clinique, d'accompagnement, de soins, etc. Et puis ils ont commencé très vite à faire des études, et notamment ils avaient remarqué que ces enfants ont ce qu'on appelle les dermatoglyphes, les lignes de la main, qui ont un dessin un peu spécifique. Ça n'est pas, le dessin n'est pas, le tracé des lignes n'est pas exactement celui des personnes ordinaires. Ils les ont étudiés et ça leur a permis de penser qu'il y avait quelque chose qui était constitutif, qu'il y avait quelque chose qui était profond, et ils naissent avec ces lignes de la main, qu'ils ont vraiment pensé à quelque chose de très de très fondamental dans la constitution de leur personnalité physique. Et c'est aussi l'époque, donc les années 50, où débute tout juste à peine la génétique. Au début des années 50, on croyait même encore que l'homme, que l'être humain, avait 48 chromosomes. En fait, ce sont les grands singes qui ont 48 chromosomes. Et c'est seulement en 1956...